Radio G. www.radio-g.fr.
Assiette pour trois. Producteur, consommateur, environnement, en AMAP, un engagement, une émission proposée par les associations des AMAP du Maine-et-Loire. Bonjour à tous. Eh bien, 15 jours, ça passe très vite. On est très heureux de retrouver les auditeurs de Radio G, de se retrouver aussi entre nous pour cette émission, nouvelle émission d'Assiette pour 3. Tout d'abord, un merci à tous ceux qui nous ont envoyé des petits mots sympas pour la première. Ça nous a réconfortés, les petites remarques constructives, les petits messages gentils. Merci à tous. Dans notre première émission, nous nous étions présentés. On avait donné quelques renseignements sur les AMAP et puis aussi sur le programme de l'année. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On fera d'abord un peu d'histoire. Mais ne vous tracassez pas, ce ne sera pas rébarbatif. On vous parlera de l'origine des AMAP, puis on essaiera de vous donner tous les renseignements pratiques, de répondre aux questions que vous vous posez, et peut-être aussi à celles que vous ne vous posez pas encore, mais que vous vous poserez demain. Enfin non, parce qu'on va essayer d'y répondre. Et donc, nous allons commencer cette nouvelle émission avec Alain et Francine, que nous retrouvons. Bonjour Alain.
Bonjour Monique.
Et bonjour Francine.
Bonjour Monique.
Un nouveau numéro aujourd'hui, qui, je l'espère, répondra à la curiosité des auditeurs de Radio G. Donc, émission pratique sur les AMAP, ça veut dire c'est quoi, comment ça marche, qu'est-ce qu'on y trouve ou qu'on n'y trouve pas, d'où viennent-elles? On va s'efforcer d'être plus clair, d'être le plus clair possible pour les auditeurs, et on va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire l'origine des AMAP. Je suis sûre qu'on va faire des découvertes avec Francine, qui connaît ça sur le bout des doigts. Donc, je lui passe la parole.
Merci, Monique. Les AMAP sont nés dans les années 60 au Japon. Ça nous vient vraiment de très, très, très loin. Au Japon, à cette époque-là, il y avait une énorme pollution au mercure. Les enfants naissaient avec des grosses têtes, sans bras, sans jambes. Enfin, c'était une horreur. Et les mamans, parce que ça vient souvent des mamans, ont décidé de prendre l'alimentation de leurs enfants en main. Elles sont allées trouver un maraîcher et elles lui ont dit « Eh bien voilà, nous, on veut bien acheter toute votre production et on se la répartira après entre nous. Si vous vous engagez à produire sans pesticides, sans produits chimiques. » Et bon, le maraîcher a été d'accord, ils ont appelé ça les teikei. Teikei, ça veut dire, en langage imagé au Japon, ça veut dire mettre le visage du paysan sur ses légumes. Et plus prosaïquement, ça veut dire partenariat entre un paysan et un groupe de consommateurs.
Et c'était il y a longtemps, ça ?
C'était il y a longtemps, je l'ai dit, c'était dans les années...
Ça m'a échappé.
C'était dans les années 60.
Dans les années 60.
Donc, voilà, dans les années 60. Et puis voilà, ça existe toujours au Japon, ça s'appelle toujours les teikei. Ça a sauté un petit peu Canada et États-Unis dans les années 80, en Allemagne aussi, en Belgique, enfin partout sauf en France. Et puis en France est arrivé l'année 2000, parce que c'est à cause de l'informatique. Parce que tout le monde disait, oh là là, 1999, le passage à l'an 2000, c'est bug informatique, plus rien ne fonctionnera, etc. Et un maraîcher du Var, qui avait sa fille aux États-Unis à cette époque-là, qui suivait des études, s'est dit, bon, ben, si tout fout le camp, moi, je vais passer les derniers jours de ma vie avec ma fille. Le voilà donc arrivé à New York, elle les promène un peu partout. Et un dimanche matin, dans la cour d'une église, il voit des étals avec des légumes, il voit des femmes arriver avec leur cabas sous le bras, se précipiter sur une table, vers une table, attraper un papier, le lire, le plier, le mettre dans leur sac, embrasser tout le monde, dire bonjour, parler, voilà, et puis aller se servir dans les cajots de légumes et repartir sans avoir ouvert le porte-monnaie. Évidemment, un maraîcher, ça l'interpelle. Donc, il a demandé à sa fille d'aller se renseigner. Elle a expliqué comment ça fonctionnait. L'après-midi, ils sont allés visiter les maraîchers qu'ils avaient vus le matin. Et ils sont revenus en France en se disant, c'est ça qu'on veut faire.
Et ils l'ont fait ?
Ils l'ont fait.
Sans doute.
Oui. Ils l'ont fait. À cette époque-là, Daniel et Denise Huilon, puisqu'il s'agit d'eux, avaient un peu de mal. Ils avaient 10 hectares, je crois, de maraîchage et verger du côté dans le Var, côté de Olioul. Et ils avaient du mal à vendre leurs légumes l'hiver. Ils avaient un petit peu quand même de vente directe, mais ça ne suffisait pas. Et donc, pendant un an, ils ont dit à leurs clients, bah, écoutez, voilà, on a trouvé un système révolutionnaire. On va y passer petit à petit. Et au bout d'un an, ils y sont passés. Ils ont passé toute leur clientèle en partenaire à Mapia.
C'est une belle histoire.
Voilà. Chez nous, c'est arrivé en 2005.
C'est-à-dire ?
Par 2005, c'est Alain qui est à côté de moi qui l'a mis en place avec quelques-uns de ses amis producteurs. Il va vous raconter.
Effectivement, en 2005, nous avions mené avec quelques paysans dans le sud de Maine-et-Loire une réflexion syndicale sur comment était organisée la production et la consommation en France et la mainmise effectivement de la grande distribution sur l'ensemble. Et ça nous a interpellés, voilà. Et on a fait des réunions publiques. Et puis, surprise, on a eu beaucoup de citoyens qui sont venus nous écouter, quoi.
Donc c'était voilà. Le début des AMAP ici dans la région. Oui. Et je crois savoir que vous avez aussi essaimé, puisque c'est le mot que vous employez, je crois, au-delà du Maine-et-Loire et de la France.
Oui, oui, bien sûr, ce mot-là nous vient aussi de Daniel et Denise Huilon, parce qu'ils ont trouvé ce système, ce concept tellement extraordinaire qu'ils ont voulu en faire profiter les autres maraîchers, les arboriculteurs, enfin tous ceux qui étaient dans la peine. Et donc, ils sont venus dans le Maine-et-Loire, ils sont venus d'abord à Nantes et puis dans le Maine-et-Loire pour essaimer eux-mêmes ce concept. C'est comme ça qu'on l'a découvert, nous d'ailleurs. Et puis, ils nous ont incités aussi à pratiquer l'essaimage en étant toujours un binôme, un producteur, un consommateur. C'est absolument fondamental pour avoir les deux éléments du partenariat, en fait. Le côté paysan qui produit, le côté consommateur qui mange. Et nous sommes allés, une quinzaine, je dirais, nous sommes allés dans les pays de l'Est qui sortaient tout juste du système communiste. Nous sommes allés en Estonie, en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Pologne, etc., etc., pour présenter ce concept AMAP à un moment où l'agriculture dans ces pays-là sortait tout juste de l'agriculture qu'on connaissait, nous, dans les années 50. Et avant qu'ils se lancent dans la grosse entreprise agricole, on voulait leur présenter ce concept.
Oui, donc l'essaimage réussi est vraiment très, très loin. C'est une très belle histoire. On voit là, quand on parle d'aventure humaine, on est en plein dedans et on se retrouve après une petite pause.
Thank you.
était, on était presque au Japon, hein? L'origine des AMAP. Donc c'était Nami Miyoka, je ne parle pas bien japonais, qui chantait Subayado Bushi. Mais on va revenir en France. On va rester un petit peu dans l'histoire quand même, avant de rentrer dans le concret du concret. Parce que j'imagine tout de même que toute cette démarche, ça ne se fait pas tout seul et que les changements ont dû intervenir petit à petit, une évolution des habitudes, je suppose tant du point de vue des consommateurs que des producteurs. Alors Alain, quelles sont peut-être les grandes étapes de ce changement dans le marché alimentaire depuis longtemps? Parce que je pense que l'histoire n'est pas récente, ça s'est fait...
Oui, enfin, je m'arrêterai bon, après la guerre quand même, pour revenir avant.
Bon, ça va.
Mais
bon.
Voilà, après la dernière guerre, donc 30-45. Depuis les années 60, on s'est aperçu qu'un fossé se dessinait, se créait, hein, entre les paysans d'un côté et les consommateurs de l'autre. Alors les paysans qui, sous l'impulsion des lois de modernisation de l'agriculture des années 60, entre autres, vous vous rappelez qu'Edgar Pisani, notre homme local, était ministre de l'agriculture à cette époque-là,
oui.
Donc de Montreuil-Bellay, il était de Montreuil-Bellay, c'est lui qui a impulsé ces lois. En fait, sous l'impulsion de ces lois, les paysans sont devenus petit à petit des agriculteurs, des exploitants agricoles, donc en fait, qui se sont spécialisés, ils sont devenus producteurs de lait, producteurs de viande, producteurs de céréales.
Abandon de la polyculture, quoi.
Voilà, abandon de la polyculture et surtout abandon de production fermière, quoi. Et petit à petit, en fait, cette production fermière, les agriculteurs ont arrêté de la faire pour fournir une agro-industrie, quoi, pour relancer l'agriculture. Et c'est vrai que ça a été efficace puisque dès les années 70, la France est devenue autonome au niveau alimentaire, quoi. Par contre, entre les consommateurs et puis les producteurs, après les agro-industries, on trouve les grandes surfaces, quoi, qui ont pris de l'ampleur et qui ont justement monopolisé un petit peu ce vide, hein, ce fossé. Hein.
La première à Angers, c'était record. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviendront.
Oui.
C'était à la place du Carrefour Saint-Serge actuel.
Voilà. Et toutes ces grandes surfaces, elles sont rassemblées en 4 centrales d'achat. Il y en avait 5, maintenant il y en a 4, puisque Intermarché et Système U se sont réunis pour une seule centrale d'achat. Donc on a une espèce de goulot d'étranglement entre les producteurs, l'agro-industrie de transformation et les consommateurs dans le bas. On a un goulot d'étranglement avec ces 4 centrales d'achat.
Qu'est-ce que ça a comme effet alors par rapport à vous en tant que paysan?
Eh ben c'est vraiment une situation de monopole, donc ils font la pluie et le beau temps sur le prix, hein. Donc ils imposent des prix bas, hein. Donc pour répondre à ces prix bas, les agriculteurs se sont engagés dans une agriculture industrielle très productive.
Oui.
Et puis aussi des crises sanitaires, hein, à répétition, hein, la vache folle, le veau aux hormones, les grippes aviaires, enfin bref, j'en passe, on pourrait en énumérer pas mal.
Oui, je suppose qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus,
voilà.
Parce que toutes ces pandémies, je crois on dit, ces épidémies en tout cas, sont quand même souvent dans des gros élevages.
Oui, dans les gros élevages et puis dans les circuits longs, dans le niveau de l'agro-industrie aussi. Donc il y a eu un peu tout et n'importe quoi qui a été fait, quoi. Et puis, faut reconnaître que quelle gabegie d'énergie pour un circuit si long, quoi. Donc, par exemple, mon voisin qui aurait été acheter un poulet à Super U, un poulet classe A, donc à Super U, que moi j'aurais peut-être dû produire sur ma ferme. Donc, ce poulet serait parti dans un abattoir dans les Deux-Sèvres, aurait été acheté à Rungis à Paris, racheté par la centrale d'achat de Système U à Rennes, et puis retour à Super U, donc Pavier. Vous voyez un peu le nombre de kilomètres.
Donc on retouche du doigt là qu'il y a bien sûr la qualité alimentaire, mais il y a aussi, puisqu'on parle d'écologie, toute la question du transport, hein, est un véritable problème quand même actuellement. Alors qu'est-ce que l'agriculture paysanne par rapport à cela?
Et puis aussi la disparition des paysans, hein, puisque les paysans ont été divisés par presque 10 depuis après la guerre. Donc ça c'est l'incidence aussi sur les gens, quoi, et sur les hommes, quoi. Alors l'agriculture paysanne, c'est plutôt une agriculture, je dirais, de type familial, hein, donc pratiquée sur des petites et moyennes fermes, avec une philosophie du paysan, hein, avec son bon sens, ce paysan, que les agriculteurs ont sans doute oublié en pratiquant l'agriculture industrielle. Une agriculture qui respecte ses produits, ses hommes et puis son environnement. Donc son environnement, enfin notre environnement à tous, hein, aussi
oui,
bien consommateurs
oui.
que...
Le troisième partenaire d'Assiette pour Trois, on
voilà,
l'a toujours
voilà,
dit.
Voilà. voilà. Et puis une agriculture durable, hein, quand on dit paysanne, on associe souvent une agriculture durable hein, qui est autonome, donc qui cherche à devenir autonome, qui cherche donc à être efficace, avec, produire avec, c'est-à-dire de nourrir avec moins de produits. Quoi.
Et être paysan en AMAP, alors par rapport à tout cela, ça représente quoi pour vous ?
Alors bah, être paysan en AMAP, c'est d'abord bah, vouloir nourrir ses voisins AMAPiens. Alors ça c'est important. Donc ça veut dire une agriculture nourricière, vivrière, hein, et puis bah, ses voisins, les plus proches. Hein, donc voilà, donc sans les circuits.
Être auprès, entre producteurs et consommateurs. En
voilà.
Fait.
Et puis ça veut dire aussi tisser des liens avec ses AMAPiens, que les AMAPiens bah, puissent connaître la ferme, savoir où, quand, comment, par qui c'est produit sur la ferme. Vraiment ouvrir sa ferme. Quoi.
Oui, on le verra avec les émissions qui vont suivre, parce qu'on va avoir des émissions thématiques. On va abandonner la map stricto sensu pour avoir des émissions sur des produits, sur, on le verra, le miel, le pain, et on verra qu'il y a cette proximité hein, entre celui qui produit et celui qui consomme. Donc on mesure bien les enjeux à plusieurs niveaux, le maintien de la richesse agricole, la préservation de la terre certainement, et puis les combats aussi sans doute qu'il faut mener pour une agriculture paysanne locale, et pour la santé publique aussi. Et là on est déjà dans le concret, on n'est pas dans l'irréel. Donc on va écouter maintenant Nemanja Radulović et on se retrouve tout de suite après pour le mode d'emploi d'une AMAP. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette musique-là, ça donne la pêche, ça nous donne vraiment la pleine forme. Donc, rentrons dans le vif du sujet, une AMAP, comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est que la charte ? Qu'est-ce qu'une adhésion ? Qu'est-ce que le partenariat ? Les tuteurs, un AMAPien, plein de choses. Allez, qui commence ? Francine, qu'est-ce qu'un contrat et qu'est-ce que la charte ?
La charte a été écrite par Denise Huilon il y a 15 ans maintenant, c'est-à-dire c'est une charte en 18 points qui explique très précisément, très subtilement ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que la MAP soit viable, solide et qu'elle satisfasse le paysan et les consommateurs.
Alors en gros, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parce que c'est ça qui nous intéresse.
En gros, les 18, je ne les sais pas par cœur, mais évidemment, cultiver sans pesticides, pas forcément spécifiquement bio, parce que les paysans, il y a une notion de transparence et de confiance, donc le paysan n'est pas obligé d'aller payer la certification si il est assez transparent en face de ses consommateurs, mais en tout cas cultiver sans pesticides, sans engrais chimiques, etc. Dans le respect des animaux, des hommes, de la terre. Quoi encore ? Une AMAP pour Denise, c'était un paysan, un groupe de consommateurs, c'est-à-dire une AMAP poisson, une AMAP pain, une AMAP, etc. Voilà, c'est ce qui me vient à peu près
d'accord,
à l'idée pour l'instant.
On retrouve tout ça dans la charte.
On la trouve sur Internet sans problème.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que ce fameux tuteur ?
Alors, le tuteur, c'est un consommateur bénévole qui s'associe à un paysan pour l'aider dans son travail au niveau de l'AMAP, dans son travail de gestion.
Ah, ce qui me paraît important là-dedans, c'est bénévole.
Absolument, bénévole. Ah,
c'est-à-dire que dans les AMAP, il n'y a pas question d'intermédiaire. Je ne vais pas détailler des choses plus précises, mais il n'y a vraiment que la relation producteur-consommateur avec l'intermédiaire du tuteur, mais qui est bénévole, qui ne prend aucun bénéfice dans cette affaire.
Ni intermédiaire, ni salaire, évidemment. Le tuteur a choisi d'aider le paysan parce qu'il a envie que la MAP fonctionne, parce qu'il a envie que ce paysan ne passe pas des heures à recompter ses chèques, à relire ses contrats. Donc le tuteur fait ça, il travaille sur le contrat avec le paysan, ensuite il le met en ligne, il le distribue à ses consommateurs, il récupère les contrats signés, il récupère les chèques, il établit un tableau comme il veut et il dit chaque mois à son paysan, ben voilà, tu dois apporter telle et telle quantité à tel moment de l'année.
C'est-à-dire qu'à l'avance, le paysan producteur est prévenu, il faudra tant de poulet, tant de pots de miel.
Alors non seulement il est prévenu, mais en plus il est payé à l'avance. Hein. Le contrat est assujetti à un paiement qui se fait par chèque, évidemment, en France c'est facile. Et c'est le tuteur qui gère tout ça. Donc c'est un vrai travail, mais c'est un travail bénévole qui est fait avec beaucoup de plaisir.
Bon, très bien.
Et je dirais que au niveau des tuteurs, c'est important, c'est vraiment l'interface entre les amapiens et le paysan. Quoi. Par le tuteur, on peut transmettre ce qui se passe sur la ferme. On écrit, nous, en tant que paysan. Et puis, en fait, c'est lui qui va retransmettre, puisque c'est lui qui a la liste des emails des différents amapiens. Quoi.
Je suppose que ça vous soulage bien, vous, en tant que paysan,
oui.
D'avoir ce tuteur qui s'occupe un petit peu de la gestion. Quoi,
Oui, parce que ça veut dire que toute la gestion commerciale, en fait, on ne l'a pas. On ne s'en occupe pas.
Donc, vous avez simplement le résultat.
Voilà, le résultat. Et puis, ça nous laisse du temps pour produire, pour bien produire. Parce que pour produire, il faut du temps. Voilà.
C'est ça. Donc, le consommateur, il s'est engagé à l'avance. Il a fait tous ses chèques. Il a donné ça au tuteur. Et après, ça se retrouve sur le marché de la MAP.
Oui. Et le tuteur, souvent, est présent lors de la distribution. Ça dépend des productions. Mais moi, je sais qu'en volaille, j'ai besoin de lui, puisqu'il enregistre les poids, etc. Donc, il y a pas mal de choses.
Alors, une distribution une fois par semaine, une fois par mois, vous l'avez dit la dernière fois, ça dépend des produits, sans doute.
Oui, bien sûr, il y a des distributions hebdomadaires comme les légumes, le pain, le lait, les œufs. Il peut y avoir des distributions bimensuelles ou mensuelles.
Alors, en tant que consommateur, ça nous intéresserait de savoir, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les AMAP, notamment des questions. Mais oui, mais moi, je peux pas parce que je finis de travailler à 6 heures, c'est trop contraignant, j'ai pas envie d'y aller. Ou bien, je ne peux pas y aller. D'autres observations, oui, mais quand on part en vacances, comment ça se passe ?
Alors, il y a toujours des solutions. Je pense que jusqu'à présent, on a assez de recul pour dire qu'on a toujours trouvé des solutions. Les créneaux horaires ont été calculés de façon à satisfaire le plus grand nombre de personnes, enfin d'amapiens. L'histoire des vacances, il y a toujours moyen de trouver un voisin. C'est une occasion de l'amener à découvrir les AMAP, de trouver un voisin, quelqu'un de la famille ou de faire déplacer son panier pour 15 jours plus tard. Il y a vraiment toujours des solutions. Ce qu'il faut, c'est établir un lien avec son paysan, discuter avec lui, discuter avec le tuteur, et tout s'arrange toujours.
Là, on est vraiment dans la relation humaine.
Absolument.
Donc, on voit bien qu'on aurait presque pu faire encore d'autres sous-rubriques. La relation humaine, elle est extrêmement importante à tout niveau, même pour les consommateurs qui vont justement pouvoir s'arranger en sollicitant ce qui deviennent après des amis, peut-être.
Oui, bien sûr.
Des amis pires. Peut-être.
Des amis pierres.
On pourrait inventer ça.
Je peux juste donner une anecdote. On avait dans notre AMAP un homme qui disait, moi je vous préviens, je ne suis pas venu ici pour chercher des amis, j'en ai, c'est pas ça que je cherche.
Oui.
Et quand il est parti un an après, parce qu'il a créé sa propre AMAP, il a dit, finalement c'est ça que j'ai trouvé, des amis.
Ah bah, formidable. Bon, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Une petite pause et on se retrouve après. On est déjà rendu à 23 minutes, ça passe très très vite une émission de radio. Donc on retrouve cette fois-ci nos petites brèves, alors c'est-à-dire il y a l'actualité et puis l'agenda qui nous sera présenté par Francine. Alors, l'actualité, du 22 au 26 septembre dernier a eu lieu la 11e édition du plus grand marché international dédié à l'alimentation. Dit comme ça, ça pouvait nous faire peur un peu. Mais en fait, il s'agissait d'une manifestation du mouvement Slow Food. Et c'est l'occasion de parler un peu de ce mouvement. Créée en 1986 en Italie, l'association avait pour but d'apporter une alternative à la prolifération des fast-foods, la nourriture rapide, on a connu ça chez nous aussi, hein. D'où le nom par réaction de slow food, hein. Prendre la nourriture avec lenteur, la nourriture lente. Alors on peut dire que les objectifs du mouvement, on peut les citer, hein, au début, s'opposer aux effets dégradants de l'industrie agroalimentaire et de la culture de la restauration rapide, défendre la biodiversité alimentaire, promouvoir les effets bénéfiques de la consommation, aider les producteurs artisans. Alors ça, ce mot de producteur artisan, c'est quand même un mot intéressant. Aider les producteurs artisans de l'agroalimentaire qui font des produits de qualité. Donc on voit bien dans tout cela quand même qu'il y a un cousinage possible avec les valeurs que nous défendons. Durant cette 11e édition du salon qui s'est tenu à Turin, se sont retrouvés 7000 délégués provenant de 143 pays de tous les continents. Alors, ce n'est pas seulement des chiffres, hein. Ils représentent une humanité qui s'est retrouvée pour discuter des grands défis auxquels nous devons faire face. Tout d'abord, celui de la sauvegarde de la biodiversité. Tout ceci peut se résumer en une phrase, une sorte de devise de l'association, bon, propre et juste. Alors, vous pouvez en savoir plus sur le site international de Slow Food. Le site français il est moins explicite, donc choisissez plutôt le site international que vous pourrez consulter, rassurez-vous, en langue française, en choisissant l'onglet qui indique la langue à choisir. Il y a un petit problème de technique avec la virgule sonore, mais c'est pas grave. La plage musicale n'a pas démarré comme il fallait, mais on va rectifier ça très 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 vite. Voilà. Et la parole est à Francine pour l'agenda.
Oui, avant l'agenda, je voudrais signaler que si vous cherchez une AMAP, vous pouvez trouver toutes les AMAP du Maine-et-Loire sur le site amap49.org. L'agenda concerne la rencontre des pêcheurs de l'Île-Dieu. Nous avons une AMAP pêcheur depuis 2 ans. Les pêcheurs viendront nous expliquer leur travail le 15 octobre, le samedi soir, à Douai-la-Fontaine, salle du Petit Anjou, à 18h30. Donc, vous êtes tous conviés à aller les écouter. C'est vraiment très, très intéressant. Deuxième agenda concerne les portes ouvertes de la brasserie Belle de Maine à Bouchemaine, vendredi 14 et samedi 15. Vous aurez des concerts, apéro-concerts, marchés, exposants et spectacles. Voilà, c'est tout pour l'agenda.
Merci, Francine. Eh bien, on va arriver au terme de cette émission. Et nous nous retrouverons en novembre, je crois, pour Alain et Francine, parce que vous allez avoir les émissions prochaines avec d'autres animateurs. Donc, Alain, je crois que tu reviens en...
Si vous voulez, c'est juste un petit mot, je vous ai interpellé par rapport à...
Alors on y va, un petit mot.
C'était par rapport à la lenteur dans oui, slow food. Oui, oui. J'aime bien cette notion de lenteur, parce qu'en oui, agriculture paysanne, on aime bien la lenteur. On aime bien que les poulets poussent lentement, qu'ils arrivent jusqu'à 120 jours, voilà, que les légumes poussent lentement, que les porcs poussent lentement, pour faire des bons produits.
Voilà, pour faire des bons produits. Bon, il fallait que ça soit dit. Et là, on voit bien donc, cette proximité avec ce mouvement slow food. Donc Alain, on le retrouve en novembre, je crois.
En novembre, une émission sur ma révolution...
Très bien. Et en décembre pour Francine sur un autre thème. Pour ma part, je vous retrouverai en février prochain pour une émission blanche comme neige. Il y aura peut-être de la neige en ce mois d'hiver. Oui, oui, c'est une devinette, je ne vous en dis pas plus. Merci à Philippe qui a assuré la technique encore une fois avec brio. Assiette pour 3 vous donne rendez-vous le lundi 24 octobre de 13h à 13h30 sur Radio G. Pour une émission qui sera gourmande sur le miel, l'apiculture et bien sûr les abeilles. Je crois qu'il y a encore une petite demande d'intervention de Francine. On a encore le temps.
Oui, oui, seulement pour signaler que la prochaine émission sera le 24 octobre et concernera le miel, l'apiculture.
Je viens de le dire, voilà.
Tu viens de le dire.
Mais oui, je viens de le dire. Mais c'est bien.
Ça, ça veut dire deux fois qu'une.
Il vaut mieux deux fois qu'une. Donc rendez-vous pour les douceurs du miel. On va le redire une troisième fois, jamais 203. Le 24 octobre, avec d'autres animateurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver en ce qui me concerne en février. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
quartier des Lascars comme Moïse sur la pierre promise. La mouille, ça renforce les liens et quand la musique sonne, partout les groupes ils font péter le standard sur nos Ericsson. Du succès, on a les clés, mon clan ma clé, réseau sur beat musclé. Lyrics vif à la Cassius Clay. Un vif, kiff, mon riff, bête jusqu'en haute volta. Pose ton code, bouge ton cul et swing comme Travolta. J'en place une pour les miens car la famille y'a que ça qui compte. T'en fais mon affaire et à la surface, ma clé.
Radio G, 101.5 FM.